En 2007, Robert Lepage était invité à Thessalonique, en Grèce, où il recevait le prestigieux prix Europe pour le théâtre. En complément de son dossier web sur Robert Lepage, la revue Jeu est fière de vous présenter un entretien inédit que notre collaborateur Michel Vaïs a réalisé avec le metteur en scène lors de la remise de ce prix. Robert Lepage y parle notamment de l'importance de créer à Québec, qu'il décrit comme une ville incubateur. Il aborde aussi l'interculturalisme de son œuvre et la place que le Québec y occupe, de même que son engagement politique en faveur de la souveraineté du Québec. Il discute finalement de son rapport à l'opéra, art total dont le théâtre, dit-il, devrait s'inspirer pour rester vivant.
Alors Robert, merci. Merci d'être venu. Même si tu fais beaucoup de travail en Europe et dans plusieurs pays du monde, c'est important pour toi de retourner régulièrement au Québec et même dans la ville de Québec où tu es né, où tu as tes racines. C'est important pour toi de travailler là-bas.
Oui, je pense que c'est important. Évidemment, il y a un cheminement personnel dans tout ça. C'est-à-dire que bon, Québec, c'est ma ville. C'est là que j'habite pour toutes sortes de raisons sentimentales, familiales. Comme tu dis, bon, mes racines, tout ça. Bon, oui, ça, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. En Amérique du Nord, je ne sais pas comment c'est en Europe vraiment, mais je peux vous dire qu'en Amérique du Nord, on confond beaucoup le marché et l'atelier. C'est-à-dire que y a l'endroit où on vend nos choses, et il y a les villes où on vend nos spectacles, et il y a les villes où on les fabrique. Bon, il y a des exemples en Europe, il y a de petites villes qui sont de grands lieux de création pour de grands créateurs. Chez nous, on n'a pas ça. On a la mentalité qu'il faut tout polariser dans les grands centres. Alors, Montréal est une ville extraordinaire, une ville que j'adore, mais je n'aime pas y habiter parce que c'est un grand marché. C'est un endroit où, présentement, c'est une plaque tournante très importante sur le plan culturel en Amérique du Nord. Sauf que ça demeure quand même un marché. C'est une ville difficile. C'est difficile de se concentrer sur son travail. Québec a un petit peu le gabarit d'un incubateur. Ça ressemble un peu, pour vous dire, un peu la dimension d'Édimbourg, d'une ville comme Édimbourg ou d'une ville comme Strasbourg ou une ville comme Wuppertal, ou en tout cas, je peux vous en nommer quelques-unes, mais ce n'est pas une ville qui a un très, très gros gabarit, mais qui a le gabarit d'un incubateur. C'est-à-dire c'est vraiment un lieu où les choses peuvent se développer à leur propre rythme, où les créateurs ne sont pas pris par tout le cirque médiatique, qui ne sont pas sollicités par toutes les sollicitations possibles d'une grande ville comme Montréal ou New York ou Paris. Il y a une chose très importante, il faut parler de ce qu'on connaît. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses de beaucoup de gens dans ma vie, mais de Michel Tremblay, j'ai appris que si tu veux être universel, si tu veux que ton travail soit perçu, si tu veux que ton travail touche les autres, il faut que tu parles d'une réalité très, très locale, une chose qui t'est très, très proche. Et moi, je trouve que ça serait me couper pas seulement de mes racines, mais de mes ressources sensibles si j'allais m'installer à Londres ou j'allais m'installer à Tokyo.
Tu as failli le faire à un moment donné.
J'ai failli le faire à un moment donné, bon, parce que j'étais à une époque un petit peu plus... un peu plus errant. J'étais à une époque où je me cherchais peut-être un petit peu plus. Et je me suis rendu compte qu'il faut vraiment se brancher sur... où on est. Et j'utilise toujours, moi, la métaphore d'un arbre. C'est parce qu'en Occident, un arbre, c'est un tronc avec des branches et puis des feuilles. Mais quand on travaille dans le monde oriental, le signe chinois ou japonais, en fait, le kanji qui veut dire arbre, on accorde autant d'importance aux racines qu'aux branches. Donc, ça veut dire qu'un artiste, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne fait pas juste grandir par le haut. C'est quelqu'un qui aussi qui approfondit ses racines. Et c'est difficile, je pense, aujourd'hui, avec bon, tout ce qui se passe, avec les avancements technologiques, avec la conception que les nouveaux marchés ont de la culture comment nos instances gouvernementales voient la culture et voient l'utilité de la culture dans nos sociétés. C'est très, très, très difficile de se brancher sur qui on est, d'où on vient. Mmh. Et c'est très, très important parce que c'est la seule façon d'aller par le haut, c'est de continuer à creuser par le bas.
Le 21 mars, on a publié de toi une lettre dans les journaux au Québec pour les élections du 26 mars, dans laquelle tu prenais position une fois de plus pour la souveraineté du Québec. Donc cet engagement, c'est quand même un peu étonnant, sachant que ton théâtre n'est pas comme particulièrement militant.
Non, mon théâtre n'est pas militant. Je dois vous dire que la raison pour laquelle j'ai... Moi, absolument, je ne participe pas au débat politique chez moi. C'est simplement... je me suis rendu compte qu'il y a toute une génération, une nouvelle génération de jeunes qui votent plus, qui s'intéressent plus. Puis après un dîner avec mon neveu qui m'annonçait qu'il n'allait pas voter. Et ça faisait depuis l'âge de 18 ans qu'il avait... Ça faisait quatre fois qu'il avait l'occasion de voter, puis il n'a pas voté. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a dans les nouvelles générations un désintéressement, ou peut-être pas un désintéressement, mais l'impression qu'on ne peut pas changer les choses, qu'un vote, ça ne change rien, tout ça. Alors, j'ai senti le besoin de prendre une position, de dire une chose... Ceci dit, je suis un drôle de souverainiste. Je suis un souverainiste d'occasion, un peu. Pas que je ne crois pas ou que je crois de façon telle à la souveraineté, c'est que la notion de la souveraineté chez nous, ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que ça veut dire la même chose qu'ici en Europe. C'est juste que l'idée de la fédération... en Europe, les gens essaient de travailler sur cette idée de la fédération européenne. Vous avez une fédération qui a peut-être des problèmes parfois, mais qui est un bon exemple de ce que c'est une fédération. Chez nous, la fédération, elle est un peu imposée, elle est forcée, elle a été forcée par l'histoire, tout ça. Donc, on sent en Europe une souveraineté quand même des différentes cultures, une souveraineté des différents territoires, malgré cette volonté de vouloir abolir les frontières et tout ça. Au Québec, on est vraiment isolé. On est vraiment dans un petit carcan. On est un petit village de Gaulois situé dans une mer d'anglophones. Alors, je n'ai pas l'impression d'être un séparatiste, mais d'être un souverainiste, oui, avec la notion ou avec l'interprétation européenne qu'on fait de l'idée de la souveraineté. Mm-hmm.
Et cette idée des frontières, ça t'a toujours intéressé. Alors là, on retourne au théâtre. La géographie, on en a souvent parlé. Très jeune, tu t'es intéressé aux pays étrangers. Tu voulais d'ailleurs devenir géographe.
Oui, bien géographe, ou en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que ça mange, un géographe, mais ou soit professeur de géographie, soit cartographe, soit géologue. Ben, je me suis intéressé à la géopolitique et tout ça. Bon, évidemment, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment depuis l'âge de 4 ou 5 ans. Mes premiers exposés à l'école, c'était sur la géographie ou sur des pays que je n'avais jamais visités, des choses comme ça. Ça a toujours été une passion. Et un jour, j'ai bifurqué vers les arts, comme on faisait dans les années 70, tout le monde faisait ça au Québec. Mais, curieusement, la géographie m'a rattrapé. Elle m'a rattrapé dans mon travail, elle m'a rattrapé et dans les thèmes, et dans soit le thème du voyage ou les échanges culturels ou la géopolitique ou la géologie, ou soit dans l'idée de la tournée, parce qu'évidemment, la façon de survivre ou de faire vivre un spectacle plus que 25 fois, comme c'est le cas pour la plupart des spectacles au Québec, c'est de voyager, c'est de tourner. Je pense que le Québec, mais ceci dit, c'est un peu des lieux communs, là, ce que je veux dire, mais c'est sûr que le Québec est drôlement situé, il est à quelque part entre la culture américaine et la culture européenne. Bon, les Québécois se targuent de ressembler plus aux Français quand en fait on est beaucoup plus proche des Anglais parce que notre système social et nos habitudes et nos comportements et nos valeurs de société sont beaucoup plus proches des Britanniques. Mais ceci dit, la mère patrie de la France, c'est le lieu de la culture, tout ça. Donc, on essaie de ressembler aux Français quand on est fondamentalement beaucoup plus des Britanniques. Mais c'est, si on veut, cette espèce de schizophrénie qui, je pense, fait que dans tout ça, nous, on se trouve une identité. Je me considère chanceux d'être à un moment dans l'histoire et à un endroit où il y a une culture effervescente qui est en train de se trouver. L'Australie, à sa manière, est comme ça. Il y a beaucoup de pays du Commonwealth ou d'anciennes colonies qui vivent cette réalité, où on s'accroche à la tradition du colonisateur parce qu'on veut une assurance, parce qu'on veut, se créer une tradition. Mais en même temps, tout est à inventer chez nous. Il y a beaucoup d'espace. Littéralement, au Canada, il y a beaucoup d'espace. Il y a 33 millions d'habitants sur un territoire qui est le plus grand territoire, ce n'est pas la Russie, depuis le démantèlement de l'URSS, c'est le Canada. La France rentre 5 fois dans le Québec, la Suisse 35 fois. On a 7 millions d'habitants au Québec. Alors, c'est vous dire l'espace qu'on a. Bon, oui, c'est l'espace géographique, mais c'est aussi l'espace ici. Et c'est très important. Les Australiens savent de quoi je parle. L'Australie a cette même espèce de... On a l'impression parfois en Australie, c'est difficile, ils s'accrochent à des valeurs britanniques, à des valeurs américaines, mais il y a aussi cette espèce d'ouverture. La Nouvelle-Zélande, la même chose. Alors, dans les pays où il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Ça donne des choses extrêmement naïves, des choses même un peu plus que naïves. Là, je veux dire, moi, très souvent, dans les spectacles comme les Sept Branches à Alberta, qui pourtant a été un immense succès partout en Europe, Souvent, les critiques m'ont reproché d'aborder des thèmes qu'on n'aborde plus ou qu'on n'ose pas aborder en Europe. Que les gens trouvaient que mon travail était naïf, était maladroit. Et avec le temps, j'ai compris que c'était une vertu, la maladresse. Si on veut faire évoluer les choses, si on veut changer le théâtre, si on veut découvrir de nouvelles choses, aller vers emprunter des chemins qui ne sont pas dictés, qui sont des maladresses, des naïvetés, qui sont parfois des cul-de-sac, mais qui sont parfois des choses qui s'avancent avant la courbe. Et tout à coup, on a accès à tout un autre... Moi, je fais beaucoup de spectacles, et de plus en plus, avec lesquels je ne suis pas d'accord au début. La face cachée de la lune, c'est tout ce que je déteste au théâtre. Mais j'ai appris avec le temps que, bon, finalement, c'est bien. Et ce propos-là, il se traite de cette manière-là. Et c'est la meilleure façon de le traiter. Alors, il faut, surtout dans le théâtre, si on veut que le théâtre survive, il faut laisser tomber ses pudeurs. Il faut aller là où le propos t'amène. Et parfois, ça t'amène dans des endroits... Parfois, ça t'amène dans le mélodrame. Parfois, ça t'amène dans toutes les choses qui sont normalement à proscrire au théâtre. Mais moi, j'y vais parce qu'on n'a rien à perdre.
Alors, l'idée de ces travaux en cours, de ces works in progress qui font ta marque, ça oblige les spectateurs, ou en tout cas, ça les pousse à revenir voir plusieurs versions d'un même spectacle.
Et ça crée une relation étrange avec la critique. Parce que souvent, il y a des chroniqueurs de théâtre ou des critiques qui aiment régler les choses. C'est-à-dire qu'on vient voir un spectacle et on aime dire, bon, voici le problème de spectacle ou voici où j'ai aimé ça pour ça, ça. On aime enrober les choses. On aime que les choses soient claires et soient bien. Et nous, notre relation avec la critique, elle est étrange parce que c'est arrivé souvent que le même spectacle qui a été démoli par un critique... un an plus tard, dans une nouvelle version peaufinée, va l'encenser et va dire « Ah bon, j'avais pas vu ça la première fois de ça. » Donc, notre relation, nous, on essaie de créer une espèce de dialogue avec la critique. Et je pense pas que la critique ait l'habitude, autant que les acteurs ont l'habitude aussi.
Oui, mais il faut dire que les critiques ont du mal à te suivre aussi. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, le Polygraphe à Québec, dans le sous-sol de l'Implant Théâtre, donc il y a 20 ans. Et puis, c'était extraordinaire. Ça durait à peu près une heure et demie. Je l'ai revu l'année suivante à Montréal, au théâtre de Quatre Sous. Alors là, ça avait pris... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une heure de plus. Mm-hmm. Et puis, c'était tout ce qui avait été ajouté me semblait beaucoup plus lourd. Ouais. Mais après ça, vous êtes allé à Londres et vous êtes allé à Madrid. Et là, vous avez récolté des prix. Alors, ça a dû encore évoluer.
Oui, effectivement. Mais c'est ça. C'est-à-dire que il ne faut pas... Moi, j'ai appris avec le temps à pas me fier nécessairement aux premières impressions d'un spectacle. Ce qu'on fait est extrêmement brut au début. Et ça a un charme, ça. Mm-hmm. Ensuite, on essaie de sculpter un peu, on enlève des morceaux, on fait de mauvais choix, on fait de mauvais montages, on fait de mauvaises additions. Bon, on fait des erreurs et c'est normal, on se perd. Mais il y a un moment où les choses vont rejaillir d'elles-mêmes. Quand on écrit en collectif, il y a une chose très organique qui se passe si on se donne la peine et si on se donne le temps. Il y a une chose très organique qui se passe et à un moment donné, la simplicité apparaît dans tout son charme. Mais ça, on ne peut pas commencer là. On ne peut pas commencer simple. Mais il faut aussi s'intéresser à d'autres disciplines. Si on veut que le théâtre reste vivant, le théâtre, c'est vraiment un artisanat. Donc, il faut absolument avoir dans notre giron des gens de d'autres disciplines. Et c'est une des raisons pourquoi moi, j'adore l'opéra. Et je trouve que le théâtre devrait ressembler beaucoup plus à l'opéra parce que c'est vraiment, comme dirait Frank Lloyd Wright, « the great mother art ». C'est vraiment c'est l'art total dans le sens que toutes les autres formes d'art sont au rendez-vous. C'est un carrefour pour la littérature, l'interprétation, l'architecture, la musique, la danse, enfin bon, et j'en passe, et bon, j'espère les nouvelles formes d'expression, les nouvelles formes artistiques. Donc, moi, ça m'intéresse, être dans le trafic, et j'aime que les spectacles soient la rencontre de gens qui viennent d'avenues complètement différentes et qui essaient de trouver des façons ou des vocabulaires nouveau pour dire de nouvelles histoires, ou de dire les mêmes vieilles histoires, mais au moins de nous les raconter avec un vocabulaire nouveau.
Dire des histoires comme un conteur.
Oui.
Et ce matin, Ludovic Fouquet, justement, parlait ici du conteur et de l'écran. Alors, quelle part
Oui, je l'ai entendu d'ailleurs, j'ai tout entendu ce que vous avez dit ce matin. J'étais derrière le rideau ici et je préparais la représentation de cet après-midi. Donc, au cas où les gens pensent que ça ne m'intéressait pas, c'est qu'on était occupé à autre chose.
Mais d'accord avec tout ce qu'on a dit alors?
Oui, plutôt d'accord, oui.
D'accord.
Mais non, mais c'est vrai, c'est parce que moi j'ai découvert ça. Ben, je n'ai pas découvert ça, mais c'est une intuition qui a été confirmée quand j'ai travaillé sur le projet Andersen. Bon, le projet Andersen, c'était un projet bon, qui avait été commandé par le Danemark pour 2005, pour l'année, le bicentenaire de la naissance d'Andersen. Et évidemment, c'est un conteur. Andersen, c'est quelqu'un qui racontait les choses. Et c'était un artiste multimédia parce que il détestait les enfants et il entrait dans une réception et tout de suite on le mettait dans une salle avec une vingtaine d'enfants et bon, alors il racontait ses histoires, il y avait une paire de ciseaux, il y avait un morceau de carton, il faisait des ongles chinoises, il faisait tout ça. Alors c'était un grand conteur et il faisait du théâtre, il faisait une forme de théâtre, une sorte de performance si on veut. Il ne se contentait pas de lire son histoire. Même qu'il l'improvisait et ses histoires étaient écrites dans un danois douteux. Donc, moi, je me suis reconnu un petit peu dans ça et je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'intéressait au théâtre, c'était de raconter des histoires et de prendre la position d'un conteur et qu'il y a une infinie possibilité de manière de raconter des histoires. Et dans le projet Andersen, je me permets ça. Je me permets d'arriver au début puis de dire, bon, mesdames et messieurs, ce soir, on devait vous présenter telle chose, mais à la place, je vais vous raconter une histoire. C'est un conte moderne et je commence à raconter et j'utilise tous les moyens qui sont à ma disposition. Alors, évidemment, il y a des moyens très sophistiqués, il y a des moyens de la haute technologie, il y a toutes ces choses-là, mais il y a aussi des choses comme on a vu ce soir, bon, avec une lampe, puis on fait des ondes. Bon. Donc, tout ça, ce sont des outils pour raconter. Et le raconteur et le comédien ou l'interprète, et cousin, parce que le théâtre, il a commencé comment? Bon, probablement en Grèce, pour nous, pour les Occidentaux, mais j'imagine que ça commence le jour où on est dans une carrière, on fait un feu, on raconte, on est assis autour, il fait froid, c'est la nuit, et on se raconte des choses. On est d'abord un conteur. Et un jour, il y a quelqu'un qui a le génie de se lever debout et qui utilise l'ombre qu'il y a sur la carrière et bon, il fait quelque chose. Et là, le théâtre commence. Alors, il n'y a qu'un pas entre le raconteur et le théâtre. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours soupçonnée, mais qu'avec une recherche sur Andersen, moi, Andersen, ça m'a libéré à ce niveau-là. Ça m'a fait, bon, mais dorénavant, je ne vais pas me gêner pour aller du contact direct avec le public à un truc joué. Mmh.
Chantal Hébert rappelait que tu appelles ça quelque part le conte en image.
Oui,
aussi.
Oui. Hein,
c'est ça. Mais est-ce que tu essaies de cacher la technologie le plus possible?
Ça dépend qu'est-ce qu'on veut obtenir comme effet. J'ai l'impression que de plus en plus la technologie est ouverte. Elle est de plus en plus brechtienne, elle est de plus en plus distanciée, ouverte, disponible. De toute façon, les gens savent de plus en plus de quoi elle est faite, la technologie. Alors, même si on veut la cacher...
Oui, pas toujours. Des fois, il y a un mystère. Moi, dans le projet Andersen, il y a des choses que je n'ai pas encore comprises.
Ouais.
J'ai vu deux fois, mais il y a des images, je n'ai pas compris comment ça marchait.
Ouais. Pourtant, c'est très simple. Ce sont une technologie extrêmement simple. Les gens pensent qu'on utilise des choses, des technologies de pointe. Oui, il y a des choses, il y a de petites choses. On s'intéresse à la technologie, on s'intéresse aux nouveaux vocabulaires qui viennent avec les nouvelles technologies. Mais, en fait, l'utilisation qu'on en fait... Surtout en fin de parcours, dans certaines représentations, ce sont des choses très, 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 très low-tech, qui ont l'air très high-tech, mais qui sont low-tech.
Est-ce que tu vas encore au théâtre?
Oui, je vais encore au théâtre.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent?
Absolument. Il y a beaucoup de choses. Je suis encore très inspiré par beaucoup de choses que je vois en Europe, beaucoup de choses que je vois aussi ailleurs dans les festivals, parce que j'ai une vie de festivalier. C'est principalement ce que je fais. Donc, c'est injuste de dire que quand je vais au Japon, que je vois du théâtre japonais. Je veux dire, je vois... Dans un festival à Tokyo, je vois beaucoup plus de choses qui viennent de d'autres pays que du Japon. Mais il y a aussi beaucoup de choses chez nous qui sont très intéressantes. Moi, je suis très inspiré par le travail de Wajdi Mouawad, qui vient s'installer au Québec, qui écrit dès l'âge de 14 ans des spectacles où les gens ont un prénom québécois et un nom de famille libanais, qui touche et qui parle de choses dans un français qu'il a appris sur le tard, une langue qui défend, pas parce qu'on lui a appris à défendre la langue française, parce qu'il a dû l'apprendre très tard à cause de, bon, de toutes sortes de raisons familiales. Donc, son travail, moi, m'intéresse énormément à Wajdi. Je trouve que c'est un de nos grands écrivains québécois qui reflète la nouvelle réalité du Québec et les nouveaux défis.
Vous avez quelque chose en commun, c'est le travail avec un groupe, c'est-à-dire la faculté de créer à partir d'un collectif, mais où il y a quand même une écriture individuelle qui s'affirme à travers tout ça. Mais lui, c'est davantage une démarche d'écrivain, tandis que toi, je n'ai pas l'impression que...
C'est une démarche d'écrivain, mais bien, parce qu'il faut s'entendre qu'est-ce que c'est l'écriture. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mes pudeurs, maintenant, je dis que je suis un auteur. Je n'aurais jamais osé le dire avant, parce que je pensais qu'écrire, c'était bien écrire. C'était écrire d'une façon jolie, d'une façon bien tournée. Bon, je pense qu'il y a d'autres manières d'écrire. Non, moi, ce que je pense, c'est que Wajdi, moi, je me reconnais dans le travail de Wajdi parce qu'il y a cette notion qu'on est des leaders, bon, qu'on est des gens, que les gens nous suivent, que lui et moi, on est à la tête d'un groupe et tout ça. Mais notre approche de directeur d'acteur ou notre approche de directeur d'écriture n'est pas une conception habituelle du metteur en scène, où le metteur en scène est vraiment celui qui prend toutes les responsabilités. Et c'est vraiment celui qui... C'est sa vision et la vision de ce metteur en scène-là. On est beaucoup moins individualiste. Moi, comme je dis, je suis extrêmement timide. Wajdi, encore plus timide que moi. On est des gens qui non seulement se cachons derrière leur groupe, mais qui n'existons pas sans leur groupe, sans toutes les grandes rencontres que nous avons faites, tous les grands interprètes, tous les gens de toutes les disciplines qui viennent travailler avec nous. Les gens pensent souvent que c'est de la fausse humilité, que c'est bon, mais c'est pas vrai. C'est vraiment, moi, je ne connais rien. J'ai de bonnes intuitions, je ne sais jamais où on va. Ouais, je dis la même chose. Et il commence, il part de quelque chose qui le touche, ou une chose, un objet, ou peu importe quoi, mais quelque chose qui est plein comme un œuf et qui soupçonne qu'il va être très, très riche et qui va se développer, qui va donner une myriade de possibilités. Mais il ne peut pas dire à ses acteurs, à ses actrices, « Je sais où je vais. » Et moi, c'est la même chose. Donc, c'est très difficile pour les acteurs qui ont l'habitude de se dire « Suivez-moi, je sais où je m'en vais. » Au contraire, moi, je trouve que j'aime mieux être un Christophe Colomb qui promet qu'il y a un continent de l'autre côté, même s'il ne l'a jamais vu.
Même s'il va l'appeler l'Inde.
C'est ça, exactement. Donc, ça nous oblige à aller dans des endroits où on n'est jamais allé. Ça nous oblige à se découvrir. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, et je pense que ce n'est pas juste au Québec, de plus en plus cette conception du metteur en scène ou de l'auteur qui n'est pas l'autorité absolue, mais qui est un bon modérateur, qui est quelqu'un qui est une antenne pour toutes les sensibilités des autres et toutes les connaissances des autres et toutes les envies de dire des autres.
Alors, je vous remercie d'être venu. Je remercie Robert Lepage de nous avoir accordé tout ce temps. Merci.
Merci beaucoup.